10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour très chers auditeurs, vous écoutez Le Monde ne suffit pas, l'émission qui vous permet chaque semaine de décrypter l'actualité internationale. À mes côtés, Fabien.
Bonjour Antoine, bonjour à vous tous qui nous écoutez. Cette semaine, nous vous proposons notre tour du monde avec au programme une tempête en Birmanie, la candidature de Barack Obama, les frasques de Silvio Berlusconi et une femme à la tête du Kosovo. Sans oublier le mythique palmarès dans lequel vous découvrirez pourquoi vous êtes de droite ou de gauche. Et on commence illico par la candidature officielle de Barack Obama en 2012, Antoine.
Tout à fait, Fabien. Barack Obama est candidat à sa propre succession en 2012. Il est le premier à se lancer dans la campagne présidentielle. Candidat naturel des démocrates, Barack Obama ne souffre pas de rivalité dans son propre parti, et à l'heure actuelle, aucun candidat républicain n'a osé se lancer dans la campagne. Le président des États-Unis a envoyé un message à tous ses sympathisants pour annoncer sa décision et commencer à lever des fonds pour sa campagne. Il a déclaré vouloir une campagne qui aille plus loin, qui soit plus concentrée et plus innovante que tout ce que nous avons bâti jusque-là. Fin de citation. Ce qui est un vrai défi car la campagne de 2008 avait levé un espoir que l'on avait rarement vu jusque-là.
Mais Antoine, dis-moi, le président américain n'est-il pas affaibli en ce moment? Il a lui-même reconnu avoir pris, je cite, une raclée aux élections de mi-mandat.
C'est sûr, Obama ne jouit pas d'une vague d'enthousiasme aussi importante qu'en 2008. Mais il n'est pas non plus rejeté par la population. Il recueille à l'heure actuelle 48% d'opinion favorable, ce qui constitue une légère baisse par rapport aux 53% de février. Il a pour avantage aussi d'être le leader rassembleur de son parti alors que les républicains sont très divisés. Suite à la montée du mouvement Tea Party, le parti républicain a de plus en plus de mal à concilier sa branche conservatrice et sa branche modérée. En pole position, nous retrouvons des candidats recalés en 2008. L'ancien pasteur baptiste Mike Huckabee, selon les médias américains, étudierait de près une nouvelle candidature, tandis que Mitt Romney, principal adversaire de John McCain en 2008, serait en train de mobiliser ses troupes. Mais aucun des deux n'est donné gagnant face à Obama.
La Birmanie ou Myanmar, ce pays frontalier de l'Inde, a connu lui aussi une catastrophe il y a peu. Une immense tempête qui a emporté plus de 3000 personnes. Mais les médias, focalisés sur le Japon, ont eu cet événement. Les médias birmans ont pourtant pour la première fois, ou presque, osé évoquer cet événement malgré l'obstination de la junte militaire à la tête du pays, de taire tout drame dans ce pays. L'article, paru dans le quotidien New Light of Myanmar, commençait de façon habituelle par la réponse apportée au gouvernement et consacrait presque toutes ses lignes à louer les efforts des secours des officiels. Mais des récits ont commencé à arriver de villages côtiers disant qu'un grand nombre de leurs habitants n'étaient pas rentrés. Résultat, les estimations du nombre de morts et de disparus vont, selon les sources, de 0 à 10 000 personnes.
Mais les organisations humanitaires n'ont-elles pas cherché à savoir ce qui s'était réellement passé et à venir en aide à la population?
Eh bien Antoine, figure-toi que plus d'une semaine après la catastrophe, des organisations humanitaires internationales présentes en Birmanie s'étonnait encore en prenant connaissance des rapports de terrain provenant de la région. L'ONU n'a prononcé une décision que 16 jours après la catastrophe. La question est alors naturellement, à qui la faute? La junte militaire a bien sûr une grande part de responsabilité et devra l'assumer. Le déroulement des événements montre qu'elle savait que des événements graves s'y passaient dans cette région du pays et qu'elle a sciemment refusé de faire appel à l'aide internationale. Mais les médias internationaux ont peut-être mal joué leur rôle également. Bercé par la tendance dominante, qui a fait du Japon l'information essentielle ces dernières semaines, pourtant, son regard est indispensable pour s'assurer que les fonds humanitaires, qui vont enfin arriver en Birmanie après plus de 2 semaines, pour s'assurer donc que ces fonds ne soient pas détournés par la junte, comme à son habitude. Cet événement nous en dit donc beaucoup sur la recherche de la une, avec un acquis mieux de la catastrophe qui porte la lumière sur une, mais souvent jette un voile pudique et paresseux sur l'autre.
Elle s'appelle Atifete Yahyaga et elle va prochainement fêter ses 36 ans. Ancienne générale de police, parfaitement inconnue du grand public et novice en politique, elle a été élue vendredi soir présidente du Kosovo avec 80 voix contre 101 au Parlement. Malgré cette forte majorité, ce n'est pas grâce à un consensus qu'elle a été élue, mais par souci du compromis. Je m'explique. Le choix d'Atifete Yahyaga a été le résultat d'un compromis entre le Parti démocratique du Kosovo, l'Alliance pour un nouveau Kosovo et la Ligue démocratique du Kosovo. Et ce compromis a été conclu mercredi soir à l'issue d'une réunion dirigée par l'ambassadeur américain du Kosovo, Christopher Dell.
Je t'arrête Antoine, pardon, mais que vient faire un ambassadeur américain dans l'histoire ? Cela pose pas un problème politique au Kosovo ?
Si, justement, et c'est là une grande partie du problème. Une partie des députés ont refusé de participer à l'élection et ont dénoncé une déllocratie américaine sur le Kosovo. Mais la constitution kosovare stipule que pour avaliser une élection présidentielle, il faut que les deux tiers des députés soient présents, ce qui était le cas. Il y avait 101 des 120 députés pour pouvoir voter. C'est donc un compromis entre partis politiques opposés et une puissance étrangère, les États-Unis, qui a permis l'élection d'Atifete Yahyaga.
Donc ça, c'est la première partie du problème, Antoine. Quelle est la deuxième, maintenant ?
Eh bien, en plus de cette crise liée au rôle de Christopher Dell, le Parlement kosovar était déjà sous tension suite à l'invalidation par la Cour constitutionnelle de l'élection de Berkset Pakoli, le précédent président choisi par les députés. Lors de l'élection de Berkset Pakoli, aux deux premiers tours, il n'y avait pas les deux tiers des députés au Parlement. Ce dernier a finalement accepté de retirer sa candidature. Mais voilà qu'il s'immisce dans la crise récente. Il a déclaré que si Atifete Yahyaga avait été élu, c'est parce que son nom avait été, je cite, « sorti d'une enveloppe par Christopher Dell, qui aurait lancé aux représentants des partis politiques, vous devez l'accepter ». Sinon, vous allez perdre un grand ami et l'agenda américain pour le Kosovo. La crise n'est donc pas vraiment terminée. Et devant cette situation, Atifete Yahyaga risque de ne pas occuper très longtemps ses nouvelles fonctions. Les députés ont décidé de procéder à des réformes constitutionnelles, notamment d'instaurer une élection présidentielle au suffrage universel direct qui devrait se tenir avant la fin de l'année.
Double actualité pour le chef d'État italien. Le même jour, il était sur les marches du palais de justice de Milan et annonçait son entrée en campagne électorale. Le roi des sondages et des Bunga Bunga a décidé que, puisqu'il ne peut plus éviter les salles d'audience, qui lui assurent cependant un niveau d'attention maximal de la part des médias italiens et internationaux, médias qui lui sont traditionnellement hostiles, Silvio Berlusconi a donc décidé qu'il avait tout intérêt à transformer le risque en opportunité et à gérer la crise à sa manière, c'est-à-dire selon un modèle classique de marketing.
Mais les scandales actuels liés à ses parties fines ne lui portent pas préjudice ?
Berlusconi n'a pas changé depuis sa mise en examen. Loin de là, il a même doublé la mise et continue à organiser ses fameux dîners. Il a même fait venir une centaine de personnes à son audience pour qu'il s'affiche autour d'Italiens qui le soutiennent. Bref, selon les politologues italiens, la campagne de Berlusconi est en train de devenir apolitique. Il cherche en fait à accentuer l'identification des Italiens au Cavaliere. Dino Amendouni, journaliste, considère que les électeurs italiens se répartissent en trois catégories. Je cite « les vicieux, les hypocrites et les saints ». Eh bien, Berlusconi a choisi de séduire les premiers et les deuxièmes, quitte à perdre les saints de moins en moins nombreux dans le pays. Silvio Berlusconi, donc, a réussi à joindre pouvoir médiatique et pouvoir politique. Cette habileté doit nous interroger, car le résultat est que son seul opposant solide aujourd'hui n'est autre que la Ligue du Nord, partie d'extrême droite qui a accompli ce que les extrêmes droites d'Europe accomplissent toutes, comme nous vous l'avions décrit dans une émission précédente, une certaine normalisation. Et pendant ce temps, Berlusconi se rend au tribunal, passe pour un homme comme les autres ou presque, auquel il veut que les Italiens s'identifient. Le résultat est alors que dans cette campagne qui se lance, on ne parlera pas d'économie et que trop peu de politique, puisqu'il s'agira des sujets chers à la Ligue du Nord qui entreront en compte, en premier lieu l'immigration, notamment suite aux révolutions maghrébines. Bref, Silvio Berlusconi est celui qui a fait de la politique un show, et si les médias et le reste de la société le suivent dans cette démarche, eh bien dans le cirque, c'est lui le plus fort, et il sera à nouveau élu.
Et tout de suite, place au palmarès de LMNSP, Jingle.
Et on commence ce palmarès, Antoine, par le chiffre de la semaine qui est 36.
Oui, 36, c'est le nombre de millions dépensés par le 60e sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2009. La Cour des comptes a dénoncé ce chiffre récemment et ce chiffre est jugé très élevé pour le contribuable français, même trop élevé. C'est le magazine Challenge qui a publié cette information sur son site internet le 6 avril. D'après eux, les seules dépenses de sécurité liées à 12 000 policiers et gendarmes s'élèvent à 12 millions d'euros.
C'est énorme en effet. On passe maintenant à quelque chose de plus distrayant, l'actualité insolite de la semaine, Antoine.
Eh bien, cette semaine, LMNSP va vous apprendre quelque chose. Saviez-vous que selon la configuration de votre cerveau, vous seriez prédisposé à être soit de droite, soit de gauche? C'est ce qu'une équipe de scientifiques américains nous révèle dans la revue Current Biology. Ainsi, ceux qui se disent progressistes ont tendance à avoir un cortex singulaire antérieur. Il s'agit de la partie frontale du cortex dont les fibres relaient les signaux neuronaux entre les hémisphères cérébraux droit et gauche. Eh bien, ce cortex singulaire antérieur serait plus développé, donc chez les progressistes, que chez les personnes se considérant conservatrices. En conséquence, les progressistes ont de plus grandes facilités à gérer des informations contradictoires et les conservateurs à percevoir une menace, précisent les auteurs de l'étude.
On peut toutefois retenir une bonne nouvelle de cette étude, Antoine, puisqu'on pourra désormais effectuer des sondages fiables. Il suffira de demander aux personnes le développement de leur cortex singulaire antérieur pour connaître leur opinion politique. Allez, on termine tout de même avec la citation de la semaine après cette truculente révélation.
Et c'est une citation très poétique, je vous préviens, chers auditeurs. Je cite « De même que le soleil brille pour tous, la liberté est un droit pour tous. » Fin de citation. C'est une bien belle et humaniste phrase, n'est-ce pas? Eh bien, apprenez, chers auditeurs, qu'elle orne le site du prix international Kadhafi. Oui, le prix international Kadhafi est une ONG qui récompense des personnalités qui œuvrent pour les droits de l'homme. Hugo Chavez et Nelson Mandela en sont lauréats. Parmi les conditions pour avoir ce prestigieux prix, il faut, je cite, « avoir contribué de façon marquante à rendre un service exceptionnel à l'être humain et avoir accompli de grandes actions pour la défense des droits de l'homme, pour promouvoir la cause de la liberté et soutenir la paix partout dans le monde. » Fin de citation.
C'est vraiment beau, Antoine. Mais la question est maintenant de savoir si Nicolas Sarkozy pourra le recevoir pour son action de soutien aux révolutionnaires libyens.
Effectivement. Et en attendant, notre émission s'achève. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec une revue de presse exceptionnelle et des invités.
Et d'ici là, vous pouvez écouter sur Transistor le dernier numéro de votre nouvelle émission littéraire, La Bibliothèque de Babel, ainsi que votre toute nouvelle expérience radiophonique orchestrée par Antoine et Roméo. Nouvelle expérience donc intitulée Délirium très mince.
Et surtout, n'oubliez jamais que le monde ne suffit pas.